Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Titre du trio Viret qui tomba dans l'oreille de nombreux amateurs de jazz, moi compris, c'était il y a 10 ans et on l'entend encore ce titre sur certaines stations de jazz. Jean-Philippe Viret à la contrebasse, Fabrice Moreau à la batterie et Édouard Ferlet au piano. Bonsoir Édouard Ferlet.
Pierre.
Du temps s'est écoulé depuis cette mélodie romantique, jolie, qui reste dans l'oreille. Vous n'avez cessé d'évoluer et de découvrir, puis j'allais dire transformer à la fois votre musique et votre instrument. Pourquoi ne pas rester comme d'autres grands pianistes de jazz, comme Brad Meldo, comme Bill Evans, à rester à jouer du piano? Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout transformer?
Ce qui me plaît, moi, c'est en tant qu'artiste, c'est de m'amuser, de jouer, comme son nom l'indique. Je suis un joueur et je veux à chaque fois m'amuser. Et donc, c'est le renouvellement qui m'amuse. C'est l'inconnu, c'est l'inattendu. Donc, à chaque fois, j'essaye de, en gardant évidemment mes bases, trouver des choses qui vont m'exciter, qui vont susciter mon intérêt. Voilà, le piano, il y a 88 touches, mais à un moment donné, il faut essayer de trouver d'autres choses pour s'amuser. Voilà, donc c'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de trouver des solutions pour inventer. Voilà.
Il y a déjà un peu plus de 10 ans, Peine perdue, c'était quand?
C'était en 2008.
2008, hein, ouais, 2008. Quelque chose comme ça. Je me souviens d'assister à un concert de vous au New Morning, il me semble, ou au Duc des Lombards. Vous mettiez à un moment donné, vous jouiez avec. Il y a une note que vous preniez avec votre nez, puisque vous avez
oui,
un nez un peu.
Oui, à l'époque, je faisais ça.
Vous avez ça. Ensuite, oui. vous avez un autre concert. Vous pinciez les cordes de votre piano. Ensuite, il y a eu Think Back, qui est absolument hallucinant, puisque vous avez détricoté une partition de Bach. Vous avez même joué un prélude à l'envers.
Ouais, ouais.
Et là, maintenant, avec Pianoïde, c'est le dernier album. On est entre le piano, le pianiste, la machine, le robot, la musique.
Ouais, c'est ça. C'est le jeu avec le robot. En fait, ce qui est amusant, c'est que le robot a été inventé pour remplacer le geste de l'homme, pour imiter le geste de l'homme, pour aller plus vite, pour évidemment faire des économies.
C'est Charlie Chaplin dans les temps modernes.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de s'inspirer du geste du robot. Pourquoi? Parce que le geste du robot, en fait, est inhumain. Et donc inimaginable. Et donc ça peut permettre à des artistes d'aller encore plus loin dans l'imagination. Nous, on a une imagination qui est quelque part restreinte. On s'imagine des choses qui sont faisables. Or, le robot fait des choses qui sont infaisables, inhumaines. Et je me suis amusé avec ce système de piano automatique, ce piano robot, à lui faire jouer des choses qui ne sont pas humaines. Mais ce n'est pas spécialement jouer vite et fort. Ça peut être, par exemple, jouer doucement et très faible aussi, par exemple. Mais il y a plein de modes de jeu qui sont inhumains et tout d'un coup, ça devient un autre instrument. C'est une façon de jouer avec la robotique et qui va vraiment inspirer poétique, le robot poétique.
Alors, on va voir ce que ça donne. On écoute le prélude en la mineure. Édouard, qu'est-ce qui se passe sur ce morceau? Il y a combien d'instruments? Et puis alors après, ça monte, ça monte, ça monte. On n'a malheureusement pas le temps d'écouter tout en entier.
En fait, il y a le piano sur lequel je joue, j'appelle ça le clavier.
Quatre
piano.
Instruments. Hein.
Ouais, quatre instruments. Il y a le pianomètre. Le deuxième, ça va être un contrôleur qui va modifier ce que je vais jouer sur ce pianomètre, qui va l'envoyer sur un deuxième piano qui va lui jouer en métamorphose de ce que j'ai joué, ce que je lui ai proposé, c'est-à-dire faire des arpégiateurs, faire des notes répétées. Et en plus de ça, il y a un autre contrôleur qui va lui envoyer des séquences pré-programmées que je vais pouvoir envoyer quand je veux.
Donc, un contrôleur.
Un contrôleur.
Donc, c'est pas le contrôleur du train.
Ça peut être ça.
J'aurais
toujours
voulu. Qu'est-ce que vous appelez un contrôleur? Parce que là, j'ai du mal à vous suivre.
Un contrôleur, c'est un boîtier où il y a des boutons dessus et on assigne les fonctions de sur chaque bouton. On leur assigne des fonctions.
D'accord.
C'est-à-dire accélérer le tempo, jouer plus fort, moins fort, jouer à la croche, à la double croche. Donc tout d'un coup, c'est une autre façon. C'est un autre instrument. Il a fallu que j'apprivoie cet instrument. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ce projet. Et donc, ça veut dire que le piano, j'ai le clavier et au-dessus du clavier de mon clavier de piano. J'ai un autre clavier qui s'appelle donc un contrôleur avec des boutons qui eux sont assignés à des fonctionnalités. Voilà, donc, et c'est vrai que
vous utilisez aussi un piano qui marche tout seul.
Voilà, c'est un piano en fait qui existe depuis très longtemps, début du XXe siècle, hein, qui est venu très peu de temps après le vrai piano moderne. Et vous savez, c'est les pianos qu'il y a dans les saloons qui jouent tout seul, on met des rouleaux. D'ailleurs, il y a des grands pianistes qui ont enregistré, qui ont matricé en fait les rouleaux. Et c'est très touchant d'ailleurs d'entendre des enregistrements de Fauré par exemple, qui a vraiment enregistré le seul moyen. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était d'avoir ces pianos-là dans son salon, d'avoir des pianos automatiques.
Parce qu'il n'y avait pas encore
Et quand le phonogramme est arrivé, ces pianos sont un peu partis. Mais il y avait 70% de la vente des pianos étaient des pianos automatiques.
Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a des pianos qui ressemblent à ces pianos, sauf qu'il n'y a plus des rouleaux, mais c'est des pianos,
par exemple,
des disques clavires de Yamaha, permettent de jouer un morceau et ensuite de rappuyer un bouton et le piano joue tout seul, il enfonce d'ailleurs les touches.
Exactement, on peut même récupérer les enregistrements de grands pianistes et les transformer, les faire jouer sur ce piano-là.
Donc vous jouez sur votre pianomètre et à côté il y a ce piano qui joue tout
seul. Voilà, qui joue tout seul, c'est un peu mon alter ego, mon alter robot qui va jouer. J'ai aussi des fonctionnalités qui amènent un peu de random, enfin de désordre. C'est-à-dire que c'est pas non plus toujours très précis, il va me proposer des choses et je vais jouer avec lui. En fait, je vais jouer avec moi en fait. Moi transformé, c'est un petit peu. Donc je me suis attaqué à Jean-Sébastien Bach sur les disques en solo précédemment, et là je m'attaque maintenant à moi. C'est le summum de l'égocentrisme, n'est-ce pas?
Mais oui, je vois, mais je vous reconnais bien là. La générosité incarnée, Édouard Firlet. On écoute un autre titre. Ça a l'air un peu plus classique, je vais dire.
Le défi pour moi, c'était aussi de ne pas en rajouter. Ce n'est pas parce qu'on a un deuxième piano qu'il faut mettre deux fois plus de notes. C'est presque le contraire. C'est arriver justement à avoir de nouvelles sonorités qui fait qu'on ne reconnaît pas le piano. Moi, l'idée aussi, c'est de transformer le son d'un piano en un autre instrument. Et c'est ce que me disent le public, qui me dit souvent ça en fin de concert. J'ai entendu des violons, j'ai entendu des voix, des trompettes, des percussions, bien sûr, parce que je fais des percussions dans le piano, sur les cordes, sur le métal.
Et j'ai vu que vous mettiez des boules, des balles de ping-pong sur les...
Oui, ça aussi, mais je préfère pas trop dire. Vous savez, mon manager me dit de pas dévoiler mes secrets, donc je ne dirai rien à la radio.
Tant pis pour lui, j'ai vu la vidéo, vous mettez des balles de ping-pong sur les cordes.
Je fais plein d'autres choses, que je ne dirai pas le secret. Mais c'est vrai, voilà, j'essaie de transformer le son du piano. On a tous en tête le son d'un piano, mais en fait, c'est une caisse de résonance incroyable. Avec toutes ces cordes, on peut gratter les cordes, on peut frapper les cordes, mais avec d'autres choses que les marteaux du piano. Il y a aussi tout le cadre en métal. Enfin, il y a plein de choses à faire. On peut aussi jouer sur le bruit des touches sur le piano avec ses ongles, tout simplement. Enfin, bon,
voilà. Et puis, il y a quand même, le summum. C'est ce qui sort du cerveau. C'est l'art de la composition. Ce titre qui s'appelle Vendry, ça veut dire quoi?
Ne vous dirai pas non plus.
Non, mais c'est une... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est votre imagination. Ouais. C'est peut-être un paysage. C'est peut-être une femme que vous avez connue. Peu importe. Mais il y a quand même... Et ce que je veux dire, c'est que des mélodies de jazz, on en a connu, et puis des mélodies de variété, on en a connu. On arrive quand même encore aujourd'hui, en 2022, à faire une création originale.
En fait, pour moi, le secret aussi, c'est de ne pas écouter trop les collègues. Justement, on parlait de Brad Meldo. Il m'influence trop, j'essaie de ne pas trop écouter ces musiciens. Je les ai écoutés quand j'étais étudiant, Cat Jarrett, Chick Corea, et bien encore Brad Meldo. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai encore plein de choses à donner. Et du coup, je m'écoute en silence, justement, plus je vais avoir de silence autour de moi, plus je vais pouvoir faire de la musique. C'est plutôt le contraire de ce qu'on peut imaginer. Il y a des musiciens qui peut-être préfèrent écouter beaucoup de musique pour s'en inspirer. Moi, je pense qu'on en a déjà beaucoup dans la tête et que c'est avec le silence qu'on peut réussir à créer des nouvelles mélodies.
On a écouté tout à l'heure le trio Viret, dans lequel vous avez d'une certaine manière commencé. En tout cas, ça vous a rendu célèbre. Il y a certaines fois où vous quittez votre égocentrisme que vous avez dont on a parlé.
En rigolant, bien sûr.
Bien sûr, en rigolant. Et vous rejoignez ce trio.
Ce qui est intéressant dans ce trio, c'est que c'est justement le contrebassiste qui est le leader du trio, alors qu'en général, c'est les pianistes qui sont les plus importants.
Donc il y a une guerre des égos.
Justement pas, et on s'est vraiment amusé à changer les rôles. Et justement que la contrebasse joue autre chose que le walking bass, que tout d'un coup prenne l'archet, joue des mélodies, des accords, et que le piano joue autre chose que des solos et des accords à la main gauche. Donc voilà, c'est changer les rôles une fois de plus du trio.
Guillaume Zorga, notre réalisateur, a eu la bonne idée de remettre Peine perdue. Est-ce que ce tube, même quand vous jouez pianoïde, quand vous jouez singback, est-ce qu'on vous le réclame ?
Oui, on me réclame certains morceaux que j'ai enregistrés précédemment, oui. Donc ça m'arrive de les jouer aussi pour faire plaisir au public, bien sûr.
Ça vous fait plaisir aussi.
Ça
fait
plaisir aussi, ça flatte mon ego, ça donne des cacahuètes à mon ego, bien sûr.
Décidément, c'est une interview complètement sur l'ego. Il s'appelle Édouard Ferlet, en tournée en ce moment.
Oui, alors venez m'écouter la semaine prochaine, donc jeudi 30 juin, ça serait au 360 Music Factory, c'est un club très chouette à la Goutte d'Or.
Et
donc là, c'est à Paris.
Et ça d'autres sera... dates en France également ?
Alors après, il y a Marciac justement avec le trio Véré, c'est le 6 août, il me semble. Et après le 7 avec Pianoïd, mais vous pouvez voir les dates sur mon site ferlet.com. Et voilà, je vous invite avec plaisir.
Merci beaucoup Édouard Ferlet d'avoir fait un tour par Europe 1. Et effectivement, il faut absolument écouter ce dernier disque Pianoïd. Place à Panorama dans un petit instant.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.